Maintenant, la troisième dans Jean. Et les trois lectures ont comme thème Jésus le roi des Juifs. Le premier texte va nous être lu maintenant dans Daniel 7, Daniel chapitre 7, versets 13 et 14.
Daniel 7, les versets 13 et 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite.
Le deuxième texte, c'est dans Apocalypse, le chapitre 1, les versets 5 à 8.
Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père à lui la gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées et tout œil le verra. Et ceux-mêmes qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Le texte de la prédication.
Jean 18, versets 33 à 37. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit :
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus lui répondit :
Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?
Pilate lui répondit :
Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?
Jésus répondit :
Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici.
Pilate lui dit alors :
Tu es donc roi ?
Jésus lui répondit :
C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix.
Pilate lui dit :
Qu'est-ce que la vérité ? Nous avons là 6, très exactement 7 questions ou réponses. 3 sont dans la bouche de Jésus, 4 dans la bouche de Pilate. Et c'est Pilate qui a le dernier mot. Avec cette question, qu'est-ce que la vérité ? Il y a quelques semaines, quand j'ai prêché ici, je vous ai dit qu'il y a eu un silence après qu'on ait interrogé Jésus sur les commandements. Quel est le plus grand commandement ? Jésus a cité, lui a demandé de citer les commandements et ensuite lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et on nous dit, personne n'osait plus poser de questions. Jésus a eu là le dernier mot. Il y a eu un silence après qu'il ait dit à cet homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu connais bien la loi, mais tu n'es pas encore dans le royaume. Tu n'es pas loin. Parce que l'amour était là, en face de cet homme. Il n'y avait plus à discuter. Ici, nous avons un homme qui répond en dernier. C'est Pilate qui a le dernier mot. Et il y a un silence. Cette fois-ci, c'est Jésus qui garde le silence. Ce n'est pas la foule ou Pilate, c'est Jésus. Il n'a pas répondu à la dernière question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Il n'a pas encore rajouté au dialogue, répété ou insisté ou renforcé. Non. Il a laissé le silence s'installer entre lui et Pilate. Autrement dit, il a laissé Pilate avoir le dernier mot. L'homme a eu le dernier mot sur la parole de Dieu. C'est terrible à dire. Mais la parole de Dieu, là, s'est exprimée. Mais l'homme a eu le dernier mot. C'est souvent comme ça que nous nous mettons à douter de Dieu, parce que nous avons le dernier mot. Et si nous voulons avoir la foi, il faut juste revenir en arrière à ce que Dieu nous a dit, qu'on a recouvert par nos paroles. Et ce qu'il nous a dit était suffisant. Souvent, nos doutes ne viennent pas de ce que Dieu ne parle pas. Ils viennent de ce que nous avons encore rajouté des paroles sur la sienne. Jésus a dit tout ce qui était nécessaire à Pilate pour croire. Il a effectivement témoigné de sa royauté. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, il rappelle ce témoignage de Jésus devant Pilate. Paul n'y était pas, mais ce témoignage a été fort. On ne sait pas pourquoi Paul est au courant de ce témoignage. C'était un entretien en tête à tête entre Pilate et Jésus. Mais Paul cite ce témoignage en disant à Timothée, rappelle-toi le beau témoignage de Jésus. Rappelle-toi, souviens-toi de son beau témoignage devant Pilate. Nous n'avons pas à chercher à avoir le dernier mot pour que la vérité triomphe. C'est le mal qui triomphe quand c'est nous qui voulons le dernier mot. Quand c'est nous qui voulons avoir raison. Et toujours parfois pour de très bonnes raisons, pour de très bonnes causes, même pour Jésus-Christ. On veut avoir le dernier mot. Je me rappelle d'un enterrement, c'était un légionnaire. J'arrive devant le cimetière, il y avait toute la légion étrangère. On me dit, monsieur le pasteur, vous parlez en premier. Je dis non. Non, non, moi je vais parler en dernier, parlez d'abord. Non, 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 c'est pas comme ça. En avant, marche. On va au bord de la tombe. Monsieur le pasteur, c'est à vous. Moi je vais parler. Après ils ont eu le dernier mot. Est-ce que la vérité de Dieu va triompher si nous voulons avoir le dernier mot? Jésus a laissé Pilate avoir le dernier mot. Il est probable que, parce que l'église copte éthiopienne vénère Pilate comme un saint, sa femme et lui-même seraient devenus croyants. On est sûr de rien, mais sachez que des églises très très anciennes croient que Pilate est devenu croyant. Certainement pas tout de suite. C'est un homme brutal avec les Juifs. Et nous voyons dans le récit de l'évangile de Jean combien il sait les humilier. Il utilise Jésus. Jésus est juste un instrument pour les ridiculiser. Ridiculiser les grands prêtres. Ah, voilà votre roi. C'est votre roi. Et puis Jésus était couvert de sang. Affublé d'un manteau de royal, de pourpre, et puis avec une couronne d'épines. C'était ridicule, mais comme ça, il a su humilier les Juifs, qu'il méprisait. Car il voyait bien que c'était des gens à la nucrède qui étaient capables de lui tenir tête. Mais là, il les a eus, il les a bien eus, en mettant sur la croix Jésus, roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça ne leur a pas plu, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà comment il est Pilate. Et il a été même viré par l'empereur de la Judée. On l'a retiré de son poste, tellement il était brutal, même après cette condamnation à mort de Jésus. Mais cette parole que Jésus lui a laissée, certainement, moi, puisque des églises le vénèrent comme un saint, je pense qu'elle a fait son chemin en lui. Dieu a de la patience, il n'exige pas une réciprocité immédiate, sinon il n'y aurait plus de problème dans le monde. Il n'y aurait plus de souffrance, tout le monde serait croyant. Dieu n'exige pas la réciprocité immédiate. Et il laisse Pilate avoir le dernier mot dans cette discussion. Mais la parole de Dieu n'est pas effacée. La parole de Dieu continue son chemin. Et ces paroles, nous les avons aujourd'hui. Elles nous font entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce silence que Jésus laisse s'installer entre lui et Pilate, l'homme a le dessus. Mais ça signifie la croix pour Jésus. Maintenant, fini la parlotte, fini les paroles. Dieu agit. Dieu fait le salut de Pilate en Jésus qui est venu témoigner de la vérité. Et si nous voulons connaître Jésus, effectivement, nous allons découvrir qu'il est le roi des Juifs. C'est Pilate qui pose lui-même la question. Le thème n'apparaît pas. dans les accusations qu'on porte contre Jésus. Les grands prêtres n'ont pas dit, voilà, on te l'amène parce qu'il se fait passer pour le roi, pour notre roi, on te l'amène. Non, ce n'est pas dit dans l'évangile de Jean. C'est Pilate qui, on ne sait pas pourquoi, aborde la question de la royauté de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus lui demande en retour, bon, est-ce que tu dis cela parce que c'est une question qui te tient à cœur, parce que ça vient de Dieu, autrement dit, que Dieu te donne cette pensée, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi? Ou bien est-ce que tu veux juste débattre d'une question, parce que c'est une question dont tu as entendu parler, et tu veux en débattre, en te mettant en quelque sorte en situation de spectateur extérieur à la question? La question de Jésus, roi des Juifs, nous touche au plus profond. Ce n'est pas une question qu'on peut aborder de façon académique. Oui, il y a des arguments comme ci, des arguments comme ça. C'est une question existentielle. C'est une question qui touche au fondement de notre vie. C'est pour ça que Jésus lui demande, est-ce que tu dis cela de toi-même? Ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi? Si j'ai parfois blessé des personnes en parlant trop des Juifs, de Jésus, roi des Juifs, je vous demande pardon. Mais c'est une question qu'on ne peut pas effacer. Jésus, roi des Juifs, ce n'est pas annexe dans la Bible, ce n'est pas une question secondaire qu'on pourrait éventuellement ou pas traiter. Mais c'est une question délicate, car ça touche à notre identité profonde. Dans notre identité que nous recevons de Dieu, que nous ne pouvons que recevoir de Dieu, il y a cette question, crois-tu au roi des Juifs? Ça ne concerne pas que les Juifs. D'ailleurs, Pilate répond à la question de Philippe, de Jésus, en montrant son mépris. Je suis juif, moi, ça me concerne. Ta propre nation. Et le mot ici, nation, est fort. C'est un mot rare dans l'évangile concernant les Juifs. Les Juifs sont un peuple, c'est aussi une nation. C'est une nation. Pas seulement un peuple, pas seulement une religion. C'est encore une troisième chose. Une nation. C'est une nation au milieu des nations. Ta nation, ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Je pense que ce mot nation apparaît ici parce que dans notre identité que nous recevons de Dieu, nous naissons de Sion. La nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit est annoncée dans le psaume 87, il est dit de Sion, quel que soit le peuple auquel nous appartenons ou la nation dont nous faisons partie, un tel est né là. Je lis dans le psaume 87, tout le psaume serait à lire, on peut dire de Sion, en elle, tout homme est né. On peut dire de Sion, en elle, tout être humain est né. Voyez que la naissance de Dieu s'opère à Sion. Pas comment, pourquoi Sion? Parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu c'est tout le programme de Dieu dans la Bible. Et parce que Jésus ne pouvait pas mourir et ressusciter ailleurs qu'à Sion. Et même monter au ciel, ça s'est fait sur le mont des Oliviers. Sur cette montagne de même, il viendra. C'est parce qu'il y a ce psaume 87, à mon avis, que Jésus est surpris que Nicodème ne connaisse pas la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est clairement annoncée d'après Jésus. Dans l'Ancien Testament, il dit à Nicodème, mais tu enseignes la Bible et tu ne sais même pas ça. la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit, mais c'est enseigné dans la Bible. Tu es docteur, tu es enseignant, tu as étudié les Écritures. Et toute la Bible, Jésus dit, elle parle de moi. Tout l'Ancien Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament à l'époque, il parle de moi, venez à moi, parce qu'elle parle de moi. Mais ils ne sont pas venus à lui. Et Pilate non plus n'est pas venu ce jour-là à lui. Mais le témoignage a été posé dans ce monde par un homme qui avait les mains liées, je vous le rappelle, liées, comme les membres de l'agneau de Pâques sont liés quand on va l'égorger au temple. Et dans le chapitre 18 de Jean, on rappelle que c'est le moment de la Pâque, que c'est le moment où les agneaux sont amenés au temple. Jésus est comme un agneau lié devant Pilate. Et quand il expirera, ce sera le moment où on égorge les agneaux dans le temple. Son sang a coulé pour notre salut. Jésus répond à Pilate, ma royauté n'est pas de ce monde. Et nous avons fait un contresens. Moi-même, je l'ai fait pendant des années, pendant très longtemps. J'ai fait un contresens. J'ai cru que le royaume de Dieu, c'est pas ici. C'est plus tard. C'est pas du tout ce que dit Jésus. Mais absolument pas. Il parle juste de la provenance de sa royauté. Il parle juste d'où vient le fait qu'il est roi. C'est juste ça qu'il précise là. Et ça ne vient pas des hommes, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas des grands prêtres, ça ne dépend pas de toi, Pilate, ça ne dépend pas de l'empereur, ça ne dépend pas de l'ONU, ça ne dépend pas même d'Israël et de la Knesset et des parlementaires à France ou en Israël. Ça dépend de personne. Ça dépend de Dieu. Ma royauté, elle est de Dieu. Dans le texte que Jacqueline nous a lu dans Daniel, c'est exactement ce qu'on veut nous dire. Ce fils de l'homme vient avec les nuées. Les hommes ne l'ont pas fait, fils de l'homme ou roi. C'est le fils de l'homme, il est roi, il règne. On nous dit, il règne, et ce règne ne finira jamais. Jamais. Alors, j'ai fait un contresens, et beaucoup le font aussi. Et saint Augustin déjà nous avait mis en garde contre ce contresens. Jésus parle de l'origine de sa royauté. Il ne dit pas que cette royauté n'existe pas sur terre. Il ne dit pas que son royaume n'existe pas sur terre. Il dit juste que la provenance de ce règne, elle n'est pas de la terre, elle vient du ciel. Voilà ce qu'il dit. Par contre, ce règne, ce royaume s'exerce sur terre. Le règne de Dieu est déjà sur terre. Autrement, si ce n'était pas le cas, nous n'aurions rien à faire ici. C'est ce qui nous distingue. Nous ne sommes pas simplement une religion, les chrétiens. Nous célébrons un événement qui a introduit le royaume de Dieu sur cette terre. C'est ça que nous venons célébrer. Autour de cet événement nous réunit. C'est une histoire du salut qui s'est implantée sur terre. Le règne de Dieu est venu sur terre. Il est là. Il s'exerce. Et quand il y a un miracle, c'est juste un signe. Un signe que le règne de Dieu est là. Il n'est pas là que pour des miracles. Il est là pour la nouvelle naissance. Il est là pour que nous recevions le Saint-Esprit, que nous recevions la vie nouvelle au plus profond de nous et que nous recevions l'adoration concernant le roi des Juifs. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. Nous n'avons pas à défendre Jésus. Nous n'avons pas à défendre. Témoigner de Jésus, ce n'est pas défendre Jésus. Il faut sortir de ça. L'Église a imposé la foi par la force, par les armes, par la violence, par la torture. La torture pour que les gens croient en Jésus, elle a duré en Europe pendant 500 ans. L'Inquisition a duré au moins 400 ans. On torturait les gens pour qu'ils confessent leurs fautes et croient en Jésus. Il n'y en a aucun rapport avec la foi dont Jésus parle ici. Ma royauté ne demande pas à être défendue. Nous avons juste à être témoins, même si les gens ont le dernier mot, témoigner. Et ce n'est pas parce que les gens ont le dernier mot que votre témoignage est nul. Si Jésus avait cru ça, mais alors Jésus a laissé Pilate avoir le dernier mot. Mais la vérité fait son chemin. Et la vérité, Jésus dit qu'il est roi. C'est toi qui dis je suis roi, je suis né. Ça c'est intéressant. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est important que Jésus parle ici de sa naissance dans l'évangile de Jean, l'incarnation de la parole qui existe avant la création du monde. Elle est devenue chair, on nous dit, et nous avons vu sa gloire. La naissance de Jésus, c'est la vérité qui est venue dans ce monde. C'est pas juste la doctrine de Jésus qui est la vérité. L'Église a écarté de beaucoup d'évangiles où il n'y avait que de la doctrine, des évangiles gnostiques. Non, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Pour ça, nous avons un sacrement dans l'Église. Le pain et le vin, la communion au corps et au sang du Christ, parce que c'est lui la vérité. C'est pas juste ses paroles sont vérité. Elles ne disparaîtront jamais, ça c'est sûr. Mais ses actes aussi, tous les miracles qu'il a fait sont vérité. Ce n'est pas dans cette église ici qu'on nous convaincra qu'il n'y a pas eu de miracle. Parce que nous en avons vu, nous voulons encore en voir. Les actes de Jésus sont vérité et lui-même, chaque fibre de son être, c'est vérité, c'est la vérité. Il est l'être humain, tel que Dieu le veut. Pilate le présentera un peu plus tard aux Juifs en disant « Voici l'être humain, voici Adam, voici celui que nous sommes appelés à devenir. » L'être humain est toujours en formation, en création. Et c'est en Jésus qu'il existe, vraiment. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et vous savez, vous connaissez ce verset, quand il dit « Je rends témoignage à la vérité », il rend témoignage à lui-même. Il ne peut pas nier ce qu'il est. Il le dit de toutes sortes de façons. Ce qu'il est, il l'est pour nous. Dans le chapitre précédent, Jean 17, il dit « Je me sanctifie moi-même pour que eux aussi soient sanctifiés. » Ou bien il dit, je veux, dans Jean 17, il dit beaucoup de choses comme ça, dans la prière juste avant qu'il rencontre Pilate, il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux que la vie qui est en moi, elle soit en eux. Je veux que l'amour dont tu m'aimes, donc que j'ai expérimenté avec toi, il l'expérimente en eux, que cet amour soit en eux. Tout ce que Jésus est, il veut que ça soit communiqué à nous. Voilà pourquoi il va témoigner de la vérité, il va témoigner de lui-même, parce que lui-même, il est pour nous. Lui-même est donné à nous. Lui-même ne veut que nous comme bonheur, comme destination. La destination de tout ce qu'il est lui-même, c'est nous-mêmes. Que tout cela aboutisse en nous, que nous soyons vivifiés par sa vie, que nous soyons purifiés par son sang, que nous soyons sanctifiés par sa sainteté, juste par sa justice, aimant, capable d'aimer par son amour en nous. Tout ce qu'il est, la vérité, il l'est pour que nous soyons nous-mêmes des êtres de vérité. Et il dit, c'est le résultat, quiconque est de la vérité. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il ne suffit pas de croire à la vérité, il faut être de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et là, c'est une parole que nous avons à bien des reprises dans dans le chapitre 10 où Jésus parle du bon berger. Il dit, j'ai noté 4 versets où il dit « Les brebis écoutent sa voix ». Verset 3 dans Jean 10. Verset 4, « Les brebis connaissent sa voix ». Verset 16, « Elles écouteront ma voix, les autres brebis qui ne sont pas juives, elles écouteront ma voix ». Verset 26, « Mes brebis écoutent ma voix ». Et encore dans Jean 8, 47, « Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ». Jean 8, 47 ressemble beaucoup à ce verset, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Il faut être né à nouveau pour entendre les paroles de Dieu, pour entendre les paroles de Dieu que Jésus prononce. Et c'est une écoute qui nous est donnée par cette naissance. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous voyez, on n'est pas. Ça, c'est pour ça que nous comprenons bien que ça ne peut pas être une royauté qui vient de ce monde. Car le principe de ce monde pour acquérir la sagesse, le principe le plus élémentaire pour acquérir une sagesse dans ce monde, selon ce monde, c'est de toujours douter. Le jour où vous vous arrêtez à des certitudes, vous êtes foutu. Les philosophes, les physiciens, les chimistes, les biologistes, tous avancent toujours avec du doute. On accumule les connaissances, mais plus la connaissance progresse, plus le doute progresse. Et c'est comme ça que la sagesse humaine se développe. Mais la sagesse de Dieu, ça ne se développe pas comme ça. La sagesse de Dieu vient d'en haut. Elle nous fait naître, que nous soyons plus nés dans ce monde, mais nés de Sion, nés du Père, nés de la vérité qui est Jésus. Nous sommes le premier avant, nous préparons à fêter la venue de Jésus, et aussi la venue avant, dont on a beaucoup de textes qui parlent de la venue qui va venir encore. Et dans l'Apocalypse, nous avons eu ce verset tout à l'heure, « Il est celui qui vient. » Amen.